Peut-être on va prendre quelques questions dans la salle assez rapidement. On demande d'être assez concis. Est-ce qu'il y a quelques questions?
Bonjour. Une question pour M. Saez. La première, c'est que vous avez cité les 30 ans de la naissance de l'Observatoire et que Alain Gainsberger a cité les 30 ans de la mort d'Antoine Vitez et que je me demandais s'il y allait avoir un rapprochement entre ces deux événements. Et ma deuxième question, je trouve très intéressant de considérer les élites comme des publics éloignés. Et en particulier les élus et les hauts fonctionnaires, et je me demandais si c'est un axe de travail que vous auriez ou que vous pourriez saisir en le reliant à la formation éventuelle de ces publics éloignés.
Oui, je vais vous raconter quelque chose à ce sujet. Il ne faut jamais dire le ministère de la culture, parce que quand on dit comme ça le ministère, moi, il y a toujours des personnes qui ont des décisions et des projets. Alors, récemment, un haut fonctionnaire du ministère qui s'ennuyait a eu une idée géniale. C'est de dire qu'il faut renforcer la formation des cadres les plus élevés de l'État et du ministère de la culture. Et des territoires pour les sensibiliser aux enjeux culturels, aux enjeux de société d'aujourd'hui. Et vraiment, le sujet sur lequel il faudrait commencer à réfléchir, c'est cette place de la culture dans la vie des territoires. Alors, il m'en parle et puis il me dit voilà, j'imagine un cycle de conférences. Je me dis ah, ça c'est super, c'est très, très bien, je suis tellement d'accord, il faut y aller. Et puis, voilà comment on dérégule une politique culturelle. Pardon, ça concerne l'Observatoire. Mais ce haut fonctionnaire, avec une autre personne, on imaginait de mettre en place un cycle de hautes études culturelles qui s'adresse à ces publics que je viens d'évoquer pour une formation en alternance sur le thème culture et territoire. Il se trouve que c'est exactement ce que l'Observatoire fait depuis une dizaine d'années. Donc, moi, je pose la question de la régulation. Hein. Il faut former les élites, bien entendu. Mais quand on le fait n'importe comment, eh bien, on met en difficulté l'idée même de politique culturelle. Parce que je ne vois pas pourquoi il faut financer, surtout que le ministère fait payer sa formation aussi cher que celle d'opérateurs privés. Je ne pense pas que le ministère nous aidera financer une étude là-dessus. Ah non, mais on pourrait former autrement. On pourrait avoir une nomenclature tout à fait bien étudiée. Cela dit, je pense que ce sera intéressant de regarder la prochaine étude sur les pratiques culturelles des Français qui va bientôt sortir et va nous donner aussi un certain nombre d'éléments de ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de pratiques culturelles, on a tendance à dire, bah oui, les CSP+, hein, Fréquente+, etc. Oubliant de dire qu'à l'intérieur des CSP+, évidemment, il y a ceux qui fréquentent ceci, cela, il y a ceux qui ne fréquentent pas du tout, ou il y a ceux qui fréquentent que ceci et que cela. Et c'est vrai d'ailleurs pour d'autres catégories socio-professionnelles. Donc, on a besoin de beaucoup plus de nuances, de beaucoup plus d'interprétations de ces données et beaucoup plus de travail très fin sur les statistiques des pratiques culturelles. Parce que, comme le disait Alfred Sauvy, les chiffres sont des innocents qui parlent facilement sous la torture. Et on les a fait parler pendant très longtemps sous la torture en disant un peu n'importe quoi sur le sujet. Non, on n'a pas prévu de faire un travail avec autour d'Antoine Vitez et de son anniversaire de sa mort, mais pourquoi pas, c'est pas voilà, j'ai une occasion, il faut qu'on imagine comment le faire.
L'association des régions de France ou des départements de France pour participer à la formation.
Il y a une question là-bas.
Vas-y.
Bonjour.
Moi, j'ai une question, une réflexion, mais moi, je trouve, vous avez cité le cas de liberté, là, actuellement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de scènes nationales. On leur demande, ou en tout cas, ils font le maximum également pour faire des actions culturelles, en dehors de simplement la programmation ou la production de spectacles. Mais le résultat, en tout cas, ce qu'on vient de dire, c'est que eux, ces gros établissements centralisés, ne peuvent le faire que ponctuellement, que depuis leur centre important d'activité. Et ce qui manque terriblement, ce qui a été déconstruit depuis des années, c'est ce qui se passe réellement dans les quartiers, c'est la disparition des maisons de quartier, la disparition des MJC, et ça, les maisons plus importantes, les scènes nationales, n'ont pas finalement les moyens d'être sur place, parce que ce sont encore des personnes, ils y vont, mais ponctuellement, ce sont encore des personnes qui viennent un peu d'en haut, qui descendent dans les quartiers, c'est pas dans les quartiers eux-mêmes qu'il se passe des choses. Donc je crois que là, sur la politique culturelle, il y a des demandes fortes. Sur le théâtre Liberté, ils font le maximum, avec les publics dits favorisés, mais ils le font depuis leur lieu, depuis leur situation. Donc encore une fois, de haut vers le bas, et il n'y a rien sur les quartiers eux-mêmes, fait par des gens qui viennent des quartiers.
Alors, je ne peux pas parler au nom de Liberté, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'actions possibles. J'ai envie de dire entrer en dialogue. Nous, on avait fait avec Londres il y a quelques années, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas développé. On avait créé ce qu'on a appelé des nomades à Clermont-Ferrand. Donc il y a eu un moment presque 30 villages qui étaient conventionnés classés nationales, par le biais des municipalités à chaque fois. Donc, parfois des villages de 300-400 habitants, parfois un peu plus gros. Enfin, on avait limité en dessous de 10 000 de toute façon. Et c'était vraiment une action de proximité qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on investissait la salle des fêtes du village, on l'a transformée en boîte noire. Et on y faisait une programmation, enfin, je fais référence, il n'est pas la cour d'honneur, Pascal Rambert a fait les nomades de la scène nationale de Carillon, par exemple, pour prendre un seul exemple, parmi d'autres, on ne tirait pas vers le bas pour dire les choses, on était dans notre exigence artistique normale, coutumière. Donc c'est des choses qui sont techniquement possibles, sans que ça soit forcément très coûteux, et que, effectivement, là, le résultat, et je crois que là, je cite l'exemple que moi j'ai vécu de l'intérieur, je peux en parler, mais c'est parce qu'on a fait séminaire avec Londres, et on avait rassemblé beaucoup d'expériences semblables. Il y avait un festival dans la région centre à l'époque, il y avait des pronomades en Haute-Garonne, enfin, il y avait un certain nombre de projets comme ça qui pouvaient être réfléchis de la même manière. Le Centre dramatique national de Valence fait un travail depuis très longtemps qui s'appelle la comédie itinérante. Il y a des expériences de ce genre. Alors, je ne sais pas ce que fait Liberté, je ne peux pas parler dans ce nom, mais
concrètement, le Liberté fait la même chose, mais vous y allez ponctuellement dans ces villages-là. Vous y allez, vous qui n'y habitez pas. Il n'y a pas de moyen avec éducateurs, plus éducateurs sociaux, plus éducateurs qui sont sur place en permanence. Et ça, c'est un maillage qui a complètement disparu et qui existait encore il y a 30-40 ans.
Alors, je peux t'en présenter, bien sûr, mais j'ajouterais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est là que je faisais un référent sur ça, c'est que l'intérêt de tout cela aussi, c'est qu'on s'adressait à des élus de grande proximité, des villages, et qu'on était dans une forme d'éducation populaire permanente avec eux, presque malgré nous, j'allais dire, parce que régulièrement, on interviewait la commune de Colmaire, par exemple, ou la commune d'agriculture quand il y en avait un, qu'il y avait un bien fondé à faire ça, donc on obtenait une subvention qui était assez symbolique par rapport au cours réel des choses, ça faisait partie de notre activité, de notre budget, et néanmoins, il fallait que ces villes payent, participent financièrement, et il y avait très régulièrement des états de crise, parce qu'il y avait toujours au sein de ces petites équipes municipales quelqu'un ou quelques-uns qui étaient là pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui nous coûte cher, on n'y comprend rien, on ne connaît pas les spectacles qui nous amènent, comment ça se fait que ce n'est pas les spectacles du off où on rigole tout le temps ?» Et donc, de fait, à chaque fois, on avait des espèces de débats publics internes dans ces conseils municipaux qui étaient des mouvements d'éducation populaire formidables. Encore une fois, on ne parlait que de politique très locale, mais néanmoins, on y arrivait. Et quand je dis « on y arrivait », les autres y arrivent aussi, les autres exemples que je nomme. C'était toujours dans cette relation de proximité quelque chose qui permettait de faire avancer, qui était formateur.